national. Il y a donc ce village de Brindiago. Il y a un autre village nommé Soutouken. Il y a un autre village d'Ibidjon, qui est, je crois, le chef-lieu de la communauté rurale. Alors, dans ces trois villages, il y a dans chacun de ces villages, il y a aujourd'hui un CEM, un collège d'enseignement moyen. Avant, les enfants de ces villages étaient envoyés à Sindia. Aujourd'hui, ces enfants vont au collège. Et cerise sur le gâteau, ces collèges ont des cantines scolaires. C'est comme ça que je résume un peu le bilan de Abdoulaye Wade par l'éducation. Mais si vous voulez des chiffres, en 12 ans, le Sénégal a connu de grandes mutations et réalisé des progrès dans tous les domaines. En 12 ans, le Sénégal a atteint, dans un contexte de morosité économique mondiale, des performances économiques records. Le Sénégal a réussi la stabilisation de tous les fondamentaux de l'économie, avec un taux de croissance moyen annuel de 4 à 5%, un accroissement considérable du niveau du budget de l'État, de 500 milliards à 2200 milliards. En 12 ans, Abdoulaye Wade a porté le volume total des investissements privés à au moins 1394 milliards de francs CFA. En 12 ans, il a réalisé de nombreuses infrastructures d'envergure de dernière génération. En 12 ans, le président Wade a réhabilité le réseau de transport public moribond en 2000, avec la mise en exploitation du parc d'autobus de la société Dakar Demdik. En 12 ans, il a engagé une nouvelle ère de réforme du secteur agricole. Je voudrais parler du plan Reva, de la guana, etc. En 12 ans, les interventions dans le domaine hydraulique ont permis de porter le taux d'accès à l'eau potable à 98,5% en milieu urbain et 77,5% en milieu rural. En 12 ans, le président Wade a introduit des transformations radicales dans le système éducatif sénégalais, avec une vision intégrée et novatrice de la case des tout-petits à l'université du futur. Alors, je peux continuer. Ce que je veux dire, c'est que le Sénégal n'a jamais connu un aussi grand bond en avant que sous Abdoulaye Wade. Cela est irréfutable.
Il n'a pas été réélu dès le premier tour, comme il l'a souhaité les Sénégalais.
Mais vous ne devez pas vous poser la question. Vous êtes de ceux qui pensent que l'ère des premiers tours est révolue, Alassane.
Non, il avait dit, il avait annoncé
qu'il... Oui, mais entre ce qu'il a dit et ce qu'il y a eu sur le terrain, il n'a pas à avoir honte. Non. Et ça encore, c'est un autre indicateur de la maturité des Sénégalais. Et Abdoulaye Wade a œuvré à ce que les Sénégalais atteignent ce niveau de maturité. Mais justement, l'ère des premiers tours est révolue, c'est clair.
Adrien Dior, si vous faites le bilan d'Abdoulaye Wade dans 12 ans, vous retenez quoi?
Je dois d'abord dire qu'en jargon comptable, un bilan se compose de deux parties, en actif et en passif. Je crois qu'on ne peut pas être objectif quand on se focalise uniquement sur les choses qui ont été réussies. D'autant plus qu'à ce que je sache, nous ne sommes pas encore un pays émergent, nous sommes toujours un pays du tiers-monde. Cela dit, je crois que quel que soit d'ailleurs celui qui a été au pouvoir, je crois qu'il faut toujours reconnaître à ces gens-là d'avoir réussi quelque chose. Senghor, sur le plan économique, on l'a souvent attaqué. Mais on oublie que c'est à Senghor que nous devons justement à la nation sénégalaise, qui nous a préservé d'ailleurs de certaines tentatives de division, que ce soit entre les confessions ou que ce soit entre les ethnies. Et je crois qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Abdou Diouf aussi, dans un contexte particulièrement difficile, a eu à apporter justement sa contribution. Et d'ailleurs, ce n'est pas hasard si au lendemain justement de l'alternance, le nouveau président a reconnu que les caisses de l'État étaient pleines. Il y a eu un travail d'assainissement qui a été fait au niveau des finances publiques, et je crois aussi qu'il faut reconnaître à César ce qui lui appartient. Il faut rester objectif. Abdoulaye Wade a réalisé un certain nombre de choses. On me parle de taux de croissance, mais le taux de croissance, ce n'est pas ça qui fait bouillir la marmite. On me parle d'infrastructures, c'est vrai. Certaines sont opportunes, d'autres ne le sont pas. Moi, je convoque par exemple le cas de la corniche. La corniche profite aux Sénégalais les plus nantis. Je ne suis pas dans le domaine justement des transports, de la construction des routes, des ponts, des chaussées, mais les sommes qui ont été considérées comme ayant servi justement à rendre la corniche comme elle est aujourd'hui me posent problème. Mais bien entendu, je crois que quelque part, les gens auront l'occasion effectivement de revenir sur ces questions-là. Mais juste un petit exemple que je vais vous donner relativement à la corniche. Elle a été embellie, mais on a utilisé par exemple des cocotiers qui étaient en fin de vie. Ce qui explique que quand vous arpentez justement la corniche aujourd'hui, vous rendez compte que les cocotiers qui ont été initialement plantés sont tous morts et qu'il a fallu effectivement trouver de nouveaux jeunes. Ça aussi, il y a eu des problèmes en termes de conception, mais ça n'est pas bien grave. Au niveau du secteur de l'éducation, parce que M. Ndiaye a convoqué justement le cas d'un petit village de Casamance. Ce serait que du point de vue de la construction des infrastructures scolaires, et Abdoulaye Wade a fait énormément. Mais maintenant, il ne s'agit pas de construire pour construire. Moi, j'ai horreur justement des chiffres ou des taux ou des pourcentages qu'on décline comme cela, parce que pris isolément, il ne signifie rien. Lorsque vous renforcez justement l'accès à l'école, lorsque vous créez aussi davantage de collèges, de CIM, par la même occasion, vous devez prévoir que le nombre de bacheliers fatalement va devoir augmenter. Et malheureusement, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'au niveau justement de l'enseignement supérieur, les infrastructures n'ont pas suivi. On nous a parlé de la création de nouvelles universités. L'université de Ziguinchor, de Bambé et de Thiès. Mais je défie quiconque de pouvoir localiser physiquement ces universités-là. Il s'agit plutôt d'universités virtuelles parce qu'il n'y a pas de construction nouvelle véritablement. Il s'agit de bâtiments qui étaient destinés à autre chose et qui ont été réaffectés justement pour servir d'université. Et ça pose le problème justement de la capacité du système de l'enseignement supérieur sénégalais à absorber tous les bacheliers qui sont formés. Vous n'êtes pas sans savoir, malgré l'importance des investissements qui ont été faits, que le système éducatif sénégalais aujourd'hui est bloqué. Certaines écoles n'ont pas démarré le cours depuis
mais
octobre.
Le gouvernement dit qu'il y a 40% d'application.
Moi, je ne suis pas mathématicien. Mais lorsqu'on me sort un budget de 2 000 milliards de francs CFA, je prends les 40% pour voir si effectivement cela est avéré. Mais si vous faites ce calcul primaire mathématique, vous rendrez compte que ça ne tient pas à la route. Une chose est indéniable, c'est que le régime libéral a beaucoup fait en termes de construction d'écoles, d'infrastructures scolaires. Mais il n'a pas été conséquent, puisqu'il n'a pas su anticiper. Et c'est ça qui explique aujourd'hui le blocage. Vous ne trouvez pas bizarre qu'après qu'on ait mis autant d'argent, que le système soit bloqué? Évidemment, je vous dirai une chose. Ce qui se passe au niveau de l'université que je connais le plus aujourd'hui, et qui fait que les cours n'ont pas su démarrer depuis le mois d'octobre, c'est qu'on est devant une situation où les pouvoirs publics se sont engagés dans le cadre d'accords bien ficelés et qu'ils n'ont pas respecté. Parce qu'il y avait un échéancier et ces accords-là ont été garantis dans une certaine mesure par la Fédération des associations de parents d'élèves qui malheureusement n'a pas veillé au grain, de telle sorte qu'aujourd'hui qu'on se trouve devant une situation où le blocage est tout simplement au non-respect par les pouvoirs publics de leurs engagements.
On reviendra sur ce point, parce que c'est l'un des derniers points de notre débat. Mais avant d'y aller, au-delà de l'université et des infrastructures qui ont été construites, je voulais entendre sur le plan des institutions. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais disent que Abdoulaye Wade a quand même participé à affaiblir les institutions sénégalaises par rapport justement au Conseil constitutionnel, au niveau de la justice, de l'émission de l'exécutif dans le travail de la justice, entre autres institutions, les réformes constitutionnelles qu'il a eu à mettre en place, plus d'une quinzaine en 12 ans de gouvernance, alors que le Parti Socialiste en 40 ans en a fait peut-être le même nombre.
Alexandre, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même relever les contradictions qui se trouvent dans le discours de M. Dior, qui est un professeur à l'université de Saint-Louis et qui est mieux placé que moi pour justement parler des problèmes de l'université. Mais je sens dans son discours le discours...
L'université, c'est le point. C'est le dernier point de notre débat. Je voudrais qu'on...
Je relève ça rapidement pour dire malheureusement que je suis en train de noter dans son discours un phénomène qui est en train de tuer l'intellectuel sénégalais. Je reviendrai là-dessus après. Alors, en matière de gouvernance, je ne peux pas dire... Je ne peux pas, moi, soutenir qu'Abdoulaye Wade a participé à affaiblir nos institutions. Abdoulaye Wade a participé à ancrer la démocratie dans l'esprit des Sénégalais. Ça, c'est déjà extraordinaire. Maintenant, les instruments qui ont été créés pour que cette démocratie se perfectionne, pour que cette démocratie soit élargie, ces instruments qui ont été créés, il faut veiller à ce qu'ils répondent à la raison pour laquelle ils ont été créés. Il n'est pas seul à devoir suivre. Il y a quelque part un faux procès qu'on lui fait. Je pense que Abdoulaye Wade est un démocrate. Abdoulaye Wade est un juriste. Nul mieux que lui ne comprend l'importance que doit revêtir nos institutions. Il est de bonne guerre que l'opposition parle toujours de l'affaissement.
Il y a des exemples qui ont été donnés. Par exemple, la loi Aizan qui est venue aujourd'hui.
Mais ça, c'est politique. Ça, c'est politique. Oui. Ça, c'est des questions politiques, politiciennes. Moi, je ne voudrais pas vraiment revenir sur ces questions. Mais globalement, je vous dirais que le président Ouad a œuvré pour que la démocratie, les libertés démocratiques se raffermissent ici au Sénégal. Personne ne pourra lui tenir un procès allant dans le sens du non-respect, du non-respect des libertés démocratiques, etc. Maintenant, les institutions sont animées par des hommes.
Et le Sénat, où le président nomme pratiquement la plupart des membres du Sénat. Pourquoi le Sénégal ne va pas...
Il n'y a pas que le Sénégal qui fait cela dans le monde. Écoutez, oui, mais ça ne se fait... En France, vous avez le même schéma. Un peu partout dans le monde, vous avez le même schéma. Il ne faut pas quand même qu'on cherche partout les petits poux pour diaboliser. Oui, mais c'est pas toujours exact. C'est pas toujours exact. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en matière de gouvernance, j'ai un chiffre, le Sénégal qui est classé 12e sur 53 pays africains, selon le 4e indice de la gouvernance en Afrique par la fondation Mo Ibrahim. Alors, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille créer des institutions à des buts politiciens. Je ne suis pas de ceux-là. Je sais que le président Ouad tente de perfectionner le système démocratique sénégalais. Mais l'œuvre humaine admet des insuffisances. Il faudra se battre pour que ces insuffisances-là soient atténuées. Alors, à ce niveau-là, très sérieusement, Alassane, je voudrais quand même qu'on sache raison garder et qu'on ne fasse pas des accusations gratuites et qu'on reconnaisse le rôle important que Abdoulaye Wade a joué dans l'approfondissement de la démocratie au Sénégal.
Oui. André Diok, est-ce que vous estimez que sur le plan des institutions, la gestion des institutions Kablaouda est à la hauteur de ce que le Sénégal attendait de lui?
Je crois qu'il faut d'abord préciser qu'en tant qu'opposant, Abdoulaye Wade a été pour beaucoup dans le renforcement du système démocratique sénégalais. Mais il faut dire effectivement qu'à l'époque, il n'était pas au pouvoir. Je crois que Diouf a fait un certain nombre de concessions grâce justement à la persévérance justement de l'opposant Abdoulaye Wade. Une chose maintenant est la pratique que l'opposant parvenu au pouvoir a fait justement de la chose publique. Et la première remarque que je me dois de faire, c'est que l'opposant Abdoulaye Wade estimait à tort ou à raison que ni le Conseil économique et social ni le Sénat n'était pertinent dans un environnement pauvre. À ma grande surprise, l'une des premières mesures qu'il a prises une fois élu, c'était de supprimer ces institutions-là. Malheureusement, quelques années, il les a réintroduits. Ça incline à croire qu'il s'était probablement trompé sur l'appréciation qu'il faisait. Évidemment, je crois qu'il est plus facile de s'opposer que d'assurer la gestion de la chose publique. Ce n'est pas un rôle facile, surtout dans un environnement effectivement pauvre. Mais sa pratique des institutions pose problème, surtout lorsque l'on sait que pour des considérations d'ordre politique ou politicien, on a vu justement les institutions banalisées. Je reviens justement au cas du candidat admis à aller au second tour en la personne justement de Macky Sall, qui pour se faire déchoir du perchoir a vu justement une des règles essentielles de l'Assemblée nationale modifiée. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, on lui a appliqué quelque peu la rétroactivité justement de la loi, parce que le mandat qu'il avait quand il intégrait le perchoir était de 5 ans. Une fois que la loi est tombée, on lui a opposé un an. Mais qu'à cela ne tienne, l'autre incongruité qui pose problème par rapport justement aux institutions, c'est justement le vote de la loi qui érige justement un vice-président. Je ne suis pas vieux tant que ça, mais je n'ai vu nulle part au monde un pays où vous avez, au niveau de l'architecture institutionnelle, un président de la République, un premier ministre, un Sénat, un Conseil économique et social et une vice-présidence. D'ailleurs, quelque part, il faudrait qu'il nous dise pourquoi il est apparu urgent d'instituer ce poste-là, alors que jusqu'au moment où je vous parle, effectivement, il n'a pas été pourvu. Cela me pose problème, bien entendu. Et il faut dire aussi que par rapport à la loi fondamentale, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important, vous savez que certaines de ces dispositions, vous ne pouvez pas les modifier sans opter pour la voie référendaire. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que cette constitution-là a été adoptée par référendum. Et vous savez que des dispositions aussi essentielles que la durée du mandat ont été touchés sans respecter la procédure idoine qui aurait voulu effectivement qu'on aille redemander au peuple ce qu'il pensait par rapport à cela. Et je crois qu'il est important, on ne peut pas juger les gens à partir de leurs propos, on les juge à partir justement de ce qu'ils ont fait, de la pratique des choses.
Oui. Le 25 mars prochain, donc dans plus de moins de 15 jours, les Sénégalais vont élire le président de la République, ça devrait être Abdoulaye ou Macky Sall. Aujourd'hui, parlons du programme de Macky Sall. Est-ce que vous avez l'impression aussi que les candidats, globalement, ont poser un programme ou expliquer aux Sénégalais ce qu'ils veulent faire quand ils seront élus.
Voilà, moi, ce que je sais que les candidats sont en train de ont tenté au premier tour d'expliquer ce qu'ils pouvaient offrir aux Sénégalais.
Parce qu'on a plus entendu des invectives entre candidats, mais pas de programme pour que les Sénégalais puissent choisir.
Ça, c'est un mal un peu universel. Vous allez en France, la critique porte sur justement le long débat sur des programmes. Donc on ne fait pas exception à la règle ici au Sénégal. Les candidats font des professions de foi généralement. Alors en ce qui concerne Macky Sall, c'est très important. Il ne faut pas oublier que Macky Sall est un produit de Abdoulaye Wade. C'est quelqu'un que moi personnellement je respecte parce que nous avons fait le Parti démocratique sénégalais ensemble. J'estime que c'est une valeur qui a quitté le Parti démocratique sénégalais et qui a laissé un vide terrible dans les rangs du Parti démocratique sénégalais. Sous cet angle de vue, Macky Sall est un produit de Watt. Il y a la grande dame du PDS, Awa Diop, qui aime à répéter que le produit ne peut pas ressembler au producteur. Watt, quand même, est le géniteur politique de Macky Sall. Sous cet angle encore, Macky Sall ne peut pas proposer autre chose. Macky Sall, entre les deux tours, lorsqu'il a accédé au second tour, a eu un comportement très opportuniste. Il est retourné aux assises de l'opposition. Il est retourné au M23. Peut-être parce qu'il ne s'attendait pas à sortir au second tour. Mais dans tous les cas, le programme de Macky Sall, que j'ai lu entre les lignes et à travers la presse, n'est pas un véritable programme. Le programme de Macky Sall, c'est un ensemble de vœux pieux. Mais je retiendrai quand même de ce programme-là 4 points. Macky Sall parle de l'audit des comptes de l'État. Mais il parle aussi de transformer les chefs religieux en citoyens ordinaires. Macky Sall est prêt à dépénaliser l'homosexualité.
Ah bon ? Vous avez vu ça où ?
Mais il en a parlé. Mais il en a parlé. Mais le programme, les programmes. Non, je ne suis pas en train d'inventer. Il y a les textes écrits. Attendez un truc. Il y a les textes écrits qu'on soumet aux populations qu'on programme. Mais il y a ce que l'on déclare et qu'on voudrait faire réellement.
Je voudrais que cette émission, qu'on ait un débat de tête lecture.
Mais c'est ce que je suis en train de faire, Alassane.
Attendez, je veux vous préciser, parce que c'est mon émission sur Macky Sall. J'aimerais que les gens qui viennent ici apportent des preuves de ce qu'ils avancent. Je ne veux pas que les Sénégalais aujourd'hui quittent cette émission en disant qu'on n'a rien compris à ce qui a été dit. Si vous donnez des informations, précisez-les, donnez des preuves.
Mais
je ne voudrais pas que cette émission soit une tribune pour attaquer les gens sur les choses qui ne sont pas.
Alors, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est ce que je reviens encore. Je vous dis encore que Macky Sall n'a pas de programme.
Voilà.
Et que le document que vous avez lu, je ne le considère pas comme un programme. Moi, je considère comme un programme ce que dit le candidat aux populations et à travers la presse.
Il a dit où,
Macky Sall a dit, Macky Sall estime que la question de l'homosexualité est une question sur laquelle on devrait revenir, sur laquelle on devrait discuter.
Il a dit quand et où?
Mais je l'ai lu dans la presse d'hier. Je l'ai lu dans la presse hier. Alassane, vous n'êtes pas. Attendez, vous êtes un journaliste, vous n'êtes pas forcément. Je ne raconte pas d'histoire. Vous avez un parti pris dans cette situation-là. C'est un parti pris que vous avez. Mais vous posez des questions, je vous réponds, vous voulez me recadrer. Moi, vous ne pouvez pas m'orienter. Je dis ce que je pense. Je ne sors pas du canevas. Macky Sall a déclaré que la question de l'homosexualité est une question sur laquelle on peut discuter. Je l'ai lu dans la presse d'hier.
À quel journal?
Mais tous les jours que je fais, j'ai un jeu de journaux.
Il faut préciser que
je décortique.
Soit précis.
Au sortir de cette émission, Alassane, vous me l'avez fait lors de la première.
Vous savez, monsieur Antenya, je voulais qu'on continue un débat important. Moi, je suis un journaliste professionnel. Oui. Je ne souhaiterais pas que dans mon émission.
Je ne vous nie pas votre professionnalisme.
Voilà.
J'ai pratiqué le journalisme. Je sais ce que ça veut dire. Alors, je répète encore une fois, Alassane. Il y a le programme que les candidats, à travers un texte, proposent aux populations, mais il y a un programme dont les candidats parlent à travers la presse et qu'ils soumettent aux populations. De ce programme, de ces déclarations de Macky Sall, moi, j'estime qu'il n'a pas de programme, sinon son programme se limite en 4 points. L'audit des comptes de l'État, faire des chefs religieux des citoyens ordinaires, dépénaliser l'homosexualité, envoyer les juges en prison, ça c'est Jean-Paul Diaz qui l'a dit hier, qu'ils enverront les juges en prison pour qu'ils sachent que les Sénégalais qui sont en prison souffrent. C'est ça le programme de Macky Sall.
Oui, monsieur André Diokh, est-ce que vous pensez que Macky Sall a un programme pour le Sénégal?
Oui, je crois que tous les candidats ont un programme, hein, y compris les recalés du premier tour. Mais au préalable, permettez-moi quand même d'intervenir un peu sur le débat des programmes. Parce que c'est vrai qu'au premier tour, on a le sentiment que le débat programmatique n'a pas eu lieu. Mais ça s'explique tout simplement parce qu'on était dans un contexte particulier. Vous n'êtes pas sans savoir que la question justement de la décision du Conseil constitutionnel relativement à ce qui était habilité à compétir s'est posée autour justement de la non-validité de la candidature justement du président sortant. Vous savez que cela a vicié les débats. Et par rapport à cette question-là, je crois que sans vouloir être très long, ce que j'ai remarqué d'entrée de jeu, c'est que par rapport à la disposition qui était convoquée pour expliquer la recevabilité ou l'irrecevabilité de la candidature d'Abdoulaye Wade, il y a eu deux positions. La position la plus courante, c'était celle qui consistait, qui a été défendue par tous les constitutionnalistes sénégalais quasiment.
Mais vous excusez-moi,
Permettez-moi, monsieur Ndiaye, de continuer.
Mais la question de la recevabilité, de la candidature du président, c'est dépassé. Ça, c'est dépassé. C'est dépassé, c'est un débat clos.
Voilà. On va revenir à vous, il va répondre, on va laisser parler aussi quand vous parliez. Laissez les gens suivre.
Il ne faut pas induire les Sénégalais en erreur. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.
D'accord, monsieur Ndiaye.
Vous avez, monsieur Diokh, s'il vous plaît, vous avez parlé, vous avez un temps de parole. Laissez aussi à votre vis-à-vis avoir le temps de parole. Si vous avez à répondre, vous répondez. C'est moi qui organise l'émission, j'aimerais que les gens soient, respectent les règles.
Je vous en prie, Alassane.
Justement, je disais que l'immense majorité de ceux qui s'étaient prononcés et qui étaient outillés pour le faire sont allés dans le sens de l'invalidité de la candidature, de l'irrecevabilité. Je vais venir parce qu'il en a parlé tout à l'heure. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir du moment où une disposition est sujette à controverse, je crois que vous, en tant que responsable, vous devez intégrer les deux facettes. Possibilité de recevabilité, possibilité d'irrecevabilité. Or, le candidat Ouad n'a envisagé qu'une seule possibilité, comme s'il était sûr que le Conseil constitutionnel ferait ce qu'il veut. Mais cela n'est pas important. Je reviens au deuxième tour, au programme. Pour expliquer la thèse qu'il soutient comme quoi le candidat Macky Sall n'a pas de programme, il a insisté sur le fait qu'il était le fils de Ouad, que Ouad l'a fait. Mais je crois que tout maître qui se respecte ambitionne de voir justement l'élève le dépasser. Et je crois que de ce point de vue, Maître Ouad est dans cette même logique.
Mais l'élève est encore immature.
Monsieur Ndiaye, s'il vous plaît.
Un élève qui aura été directeur général d'une société nationale, qui aura été ministre de l'Intérieur, qui est en poste stratégique, qui aura été premier ministre, qui aura été président de l'Assemblée nationale, si on estime qu'il n'a pas fini son initiation, je dois quand même rappeler qu'avant d'arriver aux affaires, le seul poste public que le président Ouad avait occupé, c'était ministre d'État grâce à la volonté d'Abdoulaye Ouad. Je crois qu'il n'est pas important de faire un procès d'intention. Nous sommes dans une démocratie. C'est le peuple qui décidera.
Aujourd'hui, il
a un programme puisque déjà, il parle de la question de la diminution justement du prix des denrées de première nécessité. N'oubliez pas que dans le discours du candidat Ouad, cette question occupait une place fondamentale parce que j'ai souvenir qu'il ait dit aux Sénégalais, si vous mélisez le kilo de l'huile sera à 70 francs, le coût de l'électricité, du gaz. Or, on s'est rendu compte qu'en 12 ans de magistère, cela n'a pas été fait. Or, c'est dans l'ordre du faisable. Qu'avons-nous aujourd'hui? Un État riche dans un pays pauvre. Regardez le cortège présidentiel, regardez le cortège ministériel. Nulle part au monde vous ne trouvez un parc automobile aussi riche. Ce qui fait donc qu'en intervenant, en diminuant justement le train de vie de l'État, on diminue les taxes et par ricochet, on favorise l'accès aux denrées de première nécessité à la frange importante de la population. Parce que je crois que ce qui est constant, c'est que les couches laborieuses n'ont pas profité du magistère de Maître Watt. Celles qui sont encore dans les inondations, celles qui sont confrontées au coût extrêmement exorbitant du gaz quand il est disponible, ceux qui sont confrontés au coût du carburant. Soyons sérieux. Je crois que laissons les Sénégalais seuls juges. Ne jetons pas l'anathème sur quelqu'un qui aura été un produit libéral et qu'on aura jeté à la poubelle une fois qu'on aura fini de l'étudier. Et autre chose, permettez-moi de le préciser, monsieur Diop, c'est que le président de la République lui-même avait dit, et les Sénégalais l'ont vu, que celui qui a permis de matérialiser bon nombre de ces projets, c'était Macky Sall. Arrêtons de faire de lui justement un élève. Je crois que c'est un élève qui a appris. Et l'autre.
Je veux juste le compléter.
Non, vous ne me complétez pas, ce ne sont pas vos analyses. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pathétique. Parce que par rapport à la question de la présence d'Abdoulaye Wade au second tour, je crois que c'est pathétique de voir quelqu'un qui a 90 ans révolu aujourd'hui continuer à briguer les soirées des Sénégalais. Si c'est à cet âge-là, il estime nécessaire de continuer à être candidat, c'est quelque part, il a le sentiment d'un échec. Parce que je défie quiconque de ce qui l'entoure. J'ai aujourd'hui l'impression que Maître Abdoulaye Wade est une espèce d'appât qui est manipulé par des forces tapées dans l'ombre. Et parce qu'à 90 ans, vous ne trouverez dans aucun pays du monde un président de cet âge-là. J'ai rencontré récemment un de ses élèves qui avait 80 ans. Donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a un certain âge et qui normalement doit aspirer à une retraite tranquille. C'est important.
Faites-moi ce petit privilège quand même.
Le dernier point de notre débat, c'est la crise scolaire et universitaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile. Beaucoup de Sénégalais, beaucoup de parents sont inquiets, estiment qu'on risque d'aller vers une année blanche, aussi bien à l'école qu'à l'université. Quelle solution pour éviter justement d'aller à cette année blanche, M. Soumer?
Alors, quand je vois un professeur comme M. Adrien Dior tenir un tel discours, je comprends.
Parlons de la crise scolaire.
Je comprends pourquoi il y a persistance de la crise scolaire.
Pourquoi?
Parce que les enseignants sont des formateurs. Ils sont censés tenir des discours responsables. Le monsieur que je viens d'écouter tout de suite, que je viens d'entendre, est venu dans votre studio avec une toge de personnes non partisanes qui parlent au nom du peuple. Mais en réalité, c'est un militant politique. Mais il a fini par se dévoiler. Alors, je disais tout à l'heure que je veux le rejoindre sur un point.
La crise universitaire, le temps que nous avons parti.
Alors, la crise universitaire, elle est regrettable. Elle est regrettable. Je pense qu'il y a une solution.
Laquelle?
La solution, c'est qu'il faut la trouver courant mois de mars. Avant la fin du mois de mars, il faut trouver cette solution. Il faut s'asseoir autour d'une table, faire en sorte qu'il y ait une année académique normale, poursuivre peut-être les cours jusqu'en juin-juillet et organiser peut-être une session unique. Moi, c'est ce que je trouve comme solution. Mais je voudrais, en passant quand même, dire ce que le président Wade a fait dans le domaine, de l'éducation, surtout au niveau de l'université.
Absolument.
Mais au niveau de l'université, les enseignants sénégalais ne se plaignent plus. Moi, j'ai plein d'amis à l'extérieur qui ont fait les grandes universités américaines, africaines, asiatiques, et qui reviennent aujourd'hui au Sénégal à cause du niveau de salaire. Alors, les bourses pour les étudiants. Mais dans aucun pays du monde, vous ne trouverez une université où tous les étudiants sont boursiers. S'ils ne sont pas boursiers, ils sont bénéficiaires d'une aide.
C'est pas ça qui
compte. Au Cameroun, les étudiants ne sont pas boursiers. Moi, je trouve un seul exemple. C'est le pays dans lequel j'ai fait mes études supérieures, l'Union soviétique. C'est le seul exemple qui existe au monde.
Justement, la généralisation des bourses n'a pas posé un problème.
On peut discuter là-dessus.
L'engorgement de l'université.
Non seulement engorgement, mais on peut même poser la question sur maintenant le statut de l'étudiant. Non, le statut de l'étudiant. Est-ce que l'étudiant ne va pas finir par se comporter comme un salarié? Ça, c'est des réflexions à mener. Mais l'intention du président de la République, c'était de rehausser le niveau de l'enseignant sénégalais, de mettre l'enseignant sénégalais, l'université sénégalaise, dans les meilleures conditions et de mettre l'étudiant sénégalais dans les meilleures conditions. Alors, je termine sur ce point-là, en souhaitant qu'une solution soit trouvée à cette crise universitaire. Mais il faut aussi parler du rôle des syndicats. Il faut que l'espace universitaire et scolaire soit dépolitisé. Il faut que les syndicats jouent leur rôle pleinement. Alors qu'on sorte la politique politicienne des amphithéâtres. parce que ces syndicats ont aussi des agendas.
Oui. Adrien Diokh, vous êtes spécialiste du droit social, vous avez écrit sur les syndicats, vous êtes universitaire. Pourquoi aujourd'hui on est dans cette crise universitaire qui perdure, aussi bien universitaire que scolaire? Les enfants sont dans la rue, ils veulent étudier, ils demandent à étudier parce que la plupart des nantis, leurs enfants sont dans les, soit dans les universités privées ou bien dans les écoles privées.
C'est une situation qui nous chagrine fortement. Mais il faut dire qu'elle n'est point surprenante. Nous souhaitons bien entendu qu'il y ait
parce
une
solution. Parce que M. Gaël parle de la politisation des syndicats.
Mais en réalité, cet argument-là ne peut pas être regardé comme recevable, parce qu'à l'intérieur
des
syndicats...
Mais si,
Monsieur Ndiaye,
quand il dit des choses inexactes, moi je l'arrête. Mais prenez la peine de l'arrêter quand il dit des choses injustifiées.
Laissez-le parler, vous donnez la parole.
Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, tout le monde sait qu'il compte des membres qui appartiennent à des chapelles différentes, des libéraux, des socialistes et j'en passe. Donc c'est des gens qui sont à qui on ne peut pas manquer de respect au point de faire prendre au syndicat une dynamique qu'il ne partagerait pas. Autre chose qu'il a dit qui est extrêmement importante, c'est que le président de la République effectivement a revu les salaires des enseignants à la hausse. C'est vrai, c'est tout à son honneur. Mais permettez-moi juste de vous dire,
il y a toujours un mais. Oui, il y a toujours un mais, c'est extraordinaire.
Vous dire que à l'origine, dans les programmes publics d'habitat, de construction, les professeurs d'université avaient un quota qu'ils pouvaient prendre. Aujourd'hui, leur niveau de rémunération n'est pas suffisant, ce qui fait que ces possibilités-là ont disparu. Ils ne peuvent pas compétir de ce point de vue. Mais ce qui explique aujourd'hui la situation actuelle, c'est très simple. C'est que l'État a pris des engagements qui ont été signés en bonne et due forme par les autorités compétentes et qu'ils n'ont pas respecté. La solution, elle est là. Si l'État, aujourd'hui, respecte ses engagements, je vous souhaite que le lendemain... Je n'ose pas croire en seul instant que l'État n'ait pas les moyens, justement, de respecter les engagements qu'il a pris, non pas le couteau sur la gorge. Je vais vous convoquer quelques situations, quelques éléments qui ont constitué les accords signés il y a de cela un peu plus d'une année. C'est la question de la finition des logements administratifs entamé 2002, depuis 2002. Vous savez que la loi 81-59 qui régit le personnel enseignant dit que le personnel doit résider dans un rayon très proche de l'environnement où il travaille. Seconde chose, c'est la question de la finition des blocs scientifiques ou pédagogiques entamés depuis 2005 qui ne sont toujours pas achevés dans les établissements supérieurs. Deuxième revendication et sur laquelle l'État était d'accord, c'est l'augmentation conséquente des budgets de l'université. Troisième point, c'est la réforme des titres pour nous arriver à l'Académie mondiale. Et cinquième point, c'est d'ailleurs le moins essentiel, c'est le réajustement de l'indemnité de logement. Autrement dit, le combat qui est mené, c'est pas un combat qui consiste à prendre de l'argent pour mettre dans la poche des professeurs, mais c'est de créer les conditions pour que l'afflux de bacheliers qu'il y a, on puisse le gérer pour dispenser des cours de qualité, pour former des ressources humaines de qualité.
Quelque aujourd'hui qu'on risque d'aller vers une année blanche et l'avenir des enfants est en jeu et des étudiants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter?
Quand on brigue les suffrages des Sénégalais, c'est pour régler le problème. L'État s'est engagé en bonne et due forme. Si l'État respecte ses engagements, dès demain, les profs reprennent les poules. La solution est là.
Quelle solution pour éviter que les enfants et les élèves ne soient dans une situation d'année blanche et de perte?
Je crois que je me reprends, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le dialogue. C'est se mettre autour de la table. Le respect des engagements, je suis d'accord. Le président de la République est le premier à dire aux ministres, ne prenez pas des engagements que vous ne pourrez pas respecter. Les ministres qui sont au service de la République doivent prendre des engagements qu'ils doivent respecter. Sur ce plan, je n'ai pas de problème. Alors,
mais là, la situation est urgente.
La situation est urgente et je l'ai dit, il faut s'asseoir autour de la table rapidement, trouver une solution courant au mois de mars. Je l'ai dit.
Monsieur Diokh, pourquoi pas autour d'une table pour discuter de ça?
Mais nous, on est preneurs. Vous savez, nous avons le SAES cette semaine a demandé à rencontrer le président de la République pour probablement obtenir des garanties quant à l'avenir. Mais jusqu'au moment où je parle, le président n'est pas encore dans l'institution de l'Erzbourg. Mais nous sommes tout le temps ouverts au dialogue. On n'a jamais fermé la porte à qui que ce soit. Que ce soit l'association des parents d'élèves, que ce soit toutes les bonnes volontés, le SAES est preneur de toutes solutions qui peuvent permettre de renforcer et de préserver le système éducatif sénégalais.
Donc, le président, si vous écoutez les syndicalistes qui sont au niveau du SAES et aussi de l'enseignement secondaire, il est urgent de les recevoir, discuter avec la situation de l'école, parce que l'avenir de nos enfants et des étudiants est en jeu. Merci infiniment à mes invités sur l'Internet d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le représentant du gouvernement du Sénégal, premier conseiller auprès de l'UNESCO, et aussi auteur de beaucoup d'ouvrages, PhD. Merci aussi à Adrien Diokh, qui est docteur en droit social, au micro à la Sainte-Sambodio, à la technique.